Heures matin dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
Sans plus attendre, la page Football. Tiens, on souhaite une bonne fête à tous les Philippes. Hein. On en connaît plein de Philippes. Bonne fête à eux en ce dimanche 3 mai. C'est bien le 3, hein. Nous sommes bien le 3. Oui, le 3 mai.
Oui, pardon,
j'étais un peu perdu.
Oui.
Et demain, sera le 4. Voilà, bon, ça c'est dans l'ordre. Allez, la page Football, on la démarre. La Ligue 1 au programme avec la belle victoire des Nantais. Hier après-midi face à Marseille, 3 buts à 0. Le match nul entre le Paris Saint-Germain et Lorient, 2 partout. Les Monégasques qui s'imposent à Metz, 2 buts à 1. Nice et Lens qui font match nul, 1 but partout. Cet après-midi, les rencontres à 15h, Lille face au Havre. Angesco en déplacement à Auxerre. Le Paris FC face à Brest. Strasbourg face à Toulouse. 3 rencontres à 17h15 donc. Et puis ce soir, Lyon face à Rennes. Classement pour l'heure, le Paris Saint-Germain en tête avec 70 points, ça sent bon le titre. Deuxième, Lens avec 64 points, mais on va surtout aller voir dans le bas de classement. Auxerre est pour l'heure barragiste avec 25 points. Les Nantais, 17e avec 23 points. Et Metz est dernier avec 16 points. Une fin de saison qui va être hyper palpitante. Alors j'ai pronostiqué, puisque j'ai regardé la deuxième mi-temps, j'ai bien fait, hein, j'ai regardé la deuxième mi-temps de Nantes-Marseille, je me suis dit que, allez, on va avoir un barrage, écoutez bien, je pronostique un barrage Nantes-Saint-Etienne pour le maintien peut-être des Nantais en Ligue 1. Justement, la transition est toute faite avec les résultats du championnat de Ligue 2 qui s'est joué hier avec les premiers, enfin les résultats d'hier en Ligue 2, les voici, pardon, avec le buteur hein, du côté d'Annecy, 2-1 pour Annecy en déplacement à Boulogne. C'est Thibaut Rambaud qui marque le deuxième but pour les joueurs d'Annecy. Bien joué Thibaut. Amiens qui descend puisque le Red Star s'est imposé 3-1. Grenoble s'impose à Dunkerque 1-0. Bastia s'impose à Guingamp 1-0. Le Mans Reims c'est du 1-1. Clermont s'impose à Montpellier 2-1. Nancy s'est imposé à Pau 3-1. Superbe ambiance à Rodez où les Ruthénois ont battu Saint-Étienne 2-1. Et puis c'est Quentin Bratt hein, qui est le portier de Rodez, l'ancien des Chamois Niortais. Et puis Laval a perdu à Sombré à 3-3, leader et champion. Les hommes de Dumont se sont en effet imposés au stade de l'Aube, 4-0. 3, 67 points, Le Mans 59 points, Saint-Étienne 57 points, le Red Star 57 également, Rodez 55 points et puis dans le bas de classement, Laval est pour leur barragiste avec 29 points, Bastia avant-dernier 28 points et Amiens dernier avec 24 points relégués donc et il reste une journée dans ce championnat de Ligue 2. Un petit mot du championnat national pour vous dire que Sochaux a fait match nul face à Valenciennes 1-1. C'est encore pas monté. C'est mathématiquement, c'est encore pas fait pour les protégés de Franck Azopardi et de Vincent Ognon. Et puis dans ce championnat, eh bien, Dijon est leader avec 59 points. Là encore, il reste très très peu. Il reste 3 voire 4 matchs pour certaines équipes dans ce championnat. On attaque avec la Nationale 2. Beaucoup de buts du côté des Herbiers. Le score de parité, 3-0 face à Avranches. Et un scénario eh bien pas mal, hyper intéressant. Si vous étiez à Massabielle hier soir, il y avait 1068 spectateurs. Les Herbiers ouvrent le score par Billy à la 42e. Prennent l'avantage, enfin font le break avec Rissong à la 61e. Réaction d'Avranches à la 78e. Égalisation à la 90e. Avranches qui prend l'avantage à la 91e. Et Fiquet pour les Herbiers égalise au bout du bout du temps additionnel à la 94e le score de parité, score final 3-0. Les hommes de Patrick Olive vont sombrer à Dinan-Léon. Saumur s'est lourdement incliné 6-0. Et puis Choret termine bien sa saison. Bien joué les deux Sévriens qui s'imposent face à Poitiers. 2-1. Haut de classement hyper tendu également puisque La Roche n'a pu faire mieux que match nul à Granville 0-0. Et dans le même temps, Bordeaux s'imposait à l'extérieur 2-1 face à Bayonne. Le classement, voyez plutôt, 59 points pour La Roche, 58 points pour Bordeaux. Et là encore, il reste 2 rencontres dans ce championnat. C'est donc hyper serré. C'est hyper serré en Ligue 2. C'est aussi hyper serré dans le championnat de National. On attaque la régionale 1 avec hier soir la rencontre entre Parthenay-Viennet et Noyaux-Biez qui tourne à l'avantage de Parthenay-Viennet 4-1. Mais du côté de Noyaux-Biez, on change l'effectif parce qu'on veut aussi jouer pour l'équipe réserve dans le championnat de première division. Donc victoire de Parthenay 4-1. La victoire importante de Thouars, bien joué les hommes de Pierre Naudet qui s'imposent et qui font un grand pas vers le maintien en s'imposant à Jarnac 2-0. Et puis Bressuire reprend la seconde place de ce championnat. Les hommes de Damien Charron se sont en effet imposés 2-0 face à Périgny. L'analyse tout d'abord de ce Bressuire-Périgny avec Jean-Michel Bernier.
Un match agréable à regarder avec un FCB qui a pratiqué un jeu léché, marqué par un premier but de Junior à la 18e minute. Sur un corner cafouillé par la défense de Périgny. Le FCB a parfaitement maîtrisé cette première mi-temps. Périgny, par contre, a maîtrisé le début de la deuxième mi-temps sans être vraiment dangereux. À la 68e minute, sur un contre, Dabin libère le FCB qui reprend alors la maîtrise du jeu. Périgny ne se montrant dangereux que sur des coups de pied arrêtés.
Et Jean-Michel est allé interroger Damien Charron, lui aussi, alors doublement satisfait, même triplement satisfait, parce qu'il y a eu une belle prestation du FC Bressuire qui renoue avec la victoire. Bressuire qui prend la deuxième place de ce championnat, c'est la deuxième satisfaction. Et puis la troisième, eh bien, c'est aussi la montée pour la Régionale 3 de Léo Leray, qui jouera donc l'année prochaine en Régionale 2. Satisfaction de Damien Charron.
Je pense qu'on fait une première mi-temps, une première demi-heure très, très sérieuse. Après on a aussi puisé dans les efforts, donc dès qu'on a laissé un petit peu de latitude à l'adversaire, on a vu qu'il pouvait être dangereux. Enfin, après c'est sans surprise, on le savait aussi, mais on a réussi à contenir leurs offensives, on va dire, pas une situation très concrète si ce n'est sur coup de pied arrêté. Et puis après on est reparti avec des bonnes attitudes sur la deuxième mi-temps. L'adversaire a poussé, ce qui était logique. Mais là aussi, on était plutôt bien organisé, vigilant. On a eu de nouveau les bonnes attitudes pour avancer dans cette deuxième mi-temps. Évidemment que le deuxième but nous fait du bien. C'est dommage d'ailleurs de ne pas l'avoir mis en première mi-temps, parce qu'on aurait pu concrétiser aussi certaines situations. Et du coup, on a été au bout du match. Donc voilà, de toute façon, quand on a cet état d'esprit-là et cette qualité, je pense qu'effectivement, on peut prétendre à ce genre de résultat.
Voilà, la première satisfaction de Damien Charron. La suite de ce coach satisfait, voici.
On savait effectivement qu'à cette heure-ci, on pourrait peut-être récupérer cette deuxième place et accéder à la R2. Du coup, les deux choses sont réunies, donc c'est vraiment, vraiment bien sympa. C'est une belle chose pour le club. Ça montre, je pense, le travail aussi réalisé avec des effectifs qui sont assez jeunes, notamment pour la réserve, et le travail qui a été fait les années précédentes aussi. Et puis après, le travail d'une manière globale, générale, qui porte ses fruits. Donc ça, c'est toujours intéressant, positif. Et voilà, je pense qu'il faut en profiter ce soir déjà. Et c'est bien pour la suite.
Dans ce championnat de R1, effectivement, avec la satisfaction d'Amien Charron, dans ce championnat de R1, c'est Parthenay-Viennet qui doit faire un tout petit effort encore pour assurer le maintien. Ça pourrait faire une belle poule l'année prochaine, avec du Bressuire, du Noyaux-Biez, du Parthenay-Viennet, du Thouars, et puis la montée de Chora également. On aurait une régionale 1 avec une belle touche de Sévrienne. Ça serait plutôt agréable. En régionale 2, eh bien, des rencontres, on a mis à jour les calendriers avec, notamment dans la poule C, eh bien, Chamois-Saint-Flo face à Ruffec. La victoire des hommes de David Moreau. Victoire 3-2. Réaction, ça s'est joué à la mi-temps. À la mi-temps, il y a eu mise au point de la part de David Moreau et ça a été plutôt bénéfique, ce discours.
Bon, après la mi-temps, on a secoué un peu le cocotier là, parce que voilà, fallait qu'on fasse beaucoup plus dans les intentions et dans tout, et que si déjà on corrigeait le comportement, l'agressivité, la détermination, ça allait nous régler pas mal de choses au plan tactique. Chose qu'on a fait. On n'a pas lâché, c'est unique façon, notre équipe ne lâche pas. Elle a prouvé plusieurs fois qu'on pouvait marquer dans les derniers moments du match. Donc ça veut dire que c'est une équipe, ouais, elle lâche pas le truc, donc elle lâche personne. Donc ça nous a souri ce soir, puis c'est bien de gagner 3-2 chez nous à domicile,
c'est bien.
D'assurer la troisième place. Et je pense qu'on est à notre place, puisque Les deux premiers ont été beaucoup plus réguliers que nous. Et le champion récompense l'équipe régulière. Nous, on n'a pas été. C'est voilà, peut-être le regret qu'on a, mais content d'avoir gagné ça quand même.
Ouais, victoire face à Ruffec, 3-2. Pour Chamois Saint-Flo, la réaction de David Moreau. Et puis n'oublions pas, hein, du côté du FC Bressuire, la belle soirée qui vous est proposée, ce sera mercredi soir prochain, 19h au cinéma Le Fauteuil Rouge, avec quatre invités super intéressants à aller rencontrer. Hein, je vous y invite bien évidemment. Le choc des générations, c'est le thème qui est proposé par la soirée jaune et noire, avec s'il vous plaît Alex Dujeu, l'entraîneur du SCO d'Angers, qui sera accompagné de Grégory Maliki, l'entraîneur des gardiens, l'ancien des Chamois. Il y aura également Karl Touraine, lui aussi ancien des Chamois, aujourd'hui entraîneur du Pays Mélois. Et puis Damien Charron, le local en quelque sorte, fera partie des quatre invités. Rencontre à partir de 19h, le buffet dînatoire ensuite pour discuter avec tous ces invités, et puis le match aussi, hein, le match entre le Bayern de Munich et le Paris Saint-Germain. Tout cela, c'est au Fauteuil Rouge et c'est à partir de 19h pour cette belle rencontre à venir. Les renseignements sur contact@fcbressuire.com, sur Hello Asso également, avec un prix de 15€ pour le buffet compris. Donc voilà, il y a de quoi passer une belle soirée avec de beaux invités. On continue avec les championnats régionaux que l'on met à jour. En régional 3, eh bien, situation délicate pour Interbocage, qui a perdu face au FC Otis 5-1. Le Talus qui perd lourdement face au FC Rethet 6-1. Et puis en régional 3, dans la poule B, on savait, puisque le match a eu lieu jeudi, que le FC 3C avait perdu face à Châtellerault 3-2. Et le FC 3C qui rejoue aujourd'hui, parce que Chanteloup-Cours-la-Chapelle a des matchs en retard dans ce championnat. Déplacement pas simple, ce sera à Noyer, le leader de ce championnat pour cette équipe du FC 3C. Résultat, bien sûr, ce soir à partir de 18h dans Sport Dimanche Dernière. On parle également des championnats départementaux, ou tout du moins de la Coupe des Deux-Sèvres, avant d'évoquer le programme de cet après-midi pour les différents championnats en D1 et en D2. Un petit coup de projecteur et un retour sur les quarts de finale de cette Coupe des Deux-Sèvres, avec notamment ce FCPO face à l'Olympique de Saint-Liguer. Comprenez le football club de Pays de Loin. Et vous le savez, du côté de Mauléon, il y a une ferveur populaire qui est assez impressionnante, avec un groupe de supporters qui met le feu et qui ravit tout le monde, à commencer par Julien Thomas, entraîneur évidemment satisfait de la qualification, mais aussi satisfait de cette ambiance qui détonne complètement.
Ouais, c'est extraordinaire, c'est l'esprit coupe, c'est vraiment un truc à part. On a la chance d'y retourner encore cette année, on va rejouer une demi. Bien sûr qu'au fond de nous, on espère la regagner, mais oui, on joue au foot pour ça. Voir tout le monde, la communion, cette ferveur jaune, c'est génial.
Ouais, c'est génial, et on va revenir avec Julien tout à l'heure, parce qu'il y a match cet après-midi pour le FCPO contre l'Olympique de Saint-Liguer en championnat cette fois, et on va voir comment les deux coachs, eh bien, abordent cette rencontre. Quentin Rousseau, le défenseur central de cette équipe du FCPO, était lui heureux de cette ambiance, heureux de cette qualification, parce que l'an dernier, rappelez-vous, le FCPO est tenant du titre de cette Coupe des Deux-Sèvres. L'an dernier, il avait manqué ses rendez-vous puisqu'il s'était blessé au poignet. Donc là, il savoure comme il se doit, Quentin.
Comme d'hab, de toute façon, le COP, il fait son taf. Ils sont là tous les matchs de coupe, même championnat, on a vu, appartenait, où ils sont venus nous soutenir. C'est un groupe de copains et ils nous soutiennent, ça nous donne de la force, c'est incroyable.
On est bien d'accord, ça n'a pas été le meilleur des matchs, mais quand on est en quart, faut passer.
Non, là, c'est... Voilà, c'est en vrai, on s'en fout de faire du jeu. Là, c'est la guerre sur le terrain, c'était qu'il fallait être costaud derrière. On avait mis défense à 5 parce qu'on savait que devant il y avait, on savait pas s'il y avait Alexis Paquet ou Kevin Rocheteau. Kevin Rocheteau était là, il était bien tenu, donc nous c'est ce qu'on voulait, et puis voilà.
Et maintenant, on va au bout, hein.
Maintenant, l'objectif, ouais, c'est, on va se le dire, ouais, c'est d'aller au bout, hein. Championnat, je pense que c'est fini, et la coupe, on se le dit, il y a aucun club qui a gagné deux fois de suite. Pourquoi pas nous ? Créer l'espoir, encore une fois, et on nous attend pas encore, mais on est là, quoi.
Ils sont là, les gars du football club du Pays de Loin. Alors cet après-midi, rencontre, c'est un peu le match retour, pas tout à fait, parce que maintenant on bascule sur le championnat. Et Julien Thomas, lui, clairement, il a envie de faire tourner son effectif parce qu'il n'y a plus grand-chose à espérer du côté du FCPO dans ce championnat de première division.
On est trop loin, on va essayer de gérer les cartons, les petits bobos, les joueurs qui ont moins joué. Donc on va essayer de soigner tout ça.
Et tu veux donner, tu veux récompenser tout le monde.
Ouais, c'est ça, mais 12-13-14 qui jouent pas beaucoup depuis le début de l'année vont jouer le match entier ce week-end. Puis je leur dis merci parce que quand on joue, on a envie de jouer. Et eux, ils acceptent leur rôle de 15 minutes, 20 minutes. Parce que j'ai un 11 type qui tient vraiment la route. Donc je vais même avoir des choix à faire en demi, donc tant mieux.
Ouais, effectif remanié donc cet après-midi pour cette rencontre entre l'Olympique de Saint-Lyguerre, la réserve et puis le FCPO. Quentin Rousseau par exemple absent pour cette rencontre. Du côté de Saint-Lyguerre, eh bien Benoît Thévenet reconnaissait effectivement la supériorité du FCPO, tout du moins sur ce match, sur l'intensité, sur l'impact qu'avait donné cette équipe face à son équipe réserve, équipe réserve qui réalise néanmoins un très beau championnat et qui a surtout une carte à jouer dans ce championnat. Ils aimeraient monter, ils aimeraient jouer en Régional 3, les protégés de Benoît Thévenet.
Alors ce dimanche-là, ce sera nous qui mettrons les impacts qu'ils ont mis aujourd'hui. Mon équipe est pas abattue, on c'est ce qu'on leur a dit, on passe vite à autre chose et ils vont être en capacité de le faire.
Tu dirais quoi, ballotage favorable pour la montée ou tu es plus prudent ?
Bah écoute, je suis plus prudent maintenant avec ce que j'ai vu aujourd'hui. Hein. Mon équipe a les qualités pour le faire, on le montre depuis le début. Donc non, on y croit et puis on va y aller à 100%, on va la jouer à 100%. On est un club qui veut monter, on est en train de se reconstruire. Donc non, j'y crois réellement à cette montée, bien sûr.
Maintenant. Tu vas récupérer le goleador paquet ou pas là ?
Le goleador paquet, il est au Mexique, donc je l'aurai pas ce dimanche-là, mais après les autres matchs, là, ça y est, il va pouvoir revenir. On va pouvoir aussi faire redescendre des joueurs à moins de 10 matchs, des joueurs aussi qui n'ont pas joué. Enfin voilà, il va y avoir un système de rotation qui va être fait justement pour faire cette montée. Et puis voilà, on croise les doigts pour y arriver. En tout cas, voilà, je suis fier quand même des joueurs. On arrive en quart de finale, donc c'est quand même plutôt bien. On est une seconde équipe, ça veut dire qu'on a fait beaucoup de rotations. J'ai à peu près une quarantaine de joueurs qui sont passés dans mon équipe. Moi, j'ai pas 15 joueurs qui jouent toujours ensemble, à gagner ensemble, perdre ensemble, faire la fête ensemble. Donc voilà, là, ça s'est vu aujourd'hui, c'est normal, ils ont fait un vrai match de coupe.
S'il y avait monté de la réserve de Saint-Lyguerre, ça serait sympa, hein, parce qu'ils auraient une équipe Fagnon en R2, une réserve en R3. Ça ferait un socle relativement solide. Alors on va mettre un petit peu en parenthèse, on va se retrouver juste après la pause avec un autre quart de finale qui a été hyper intéressant. C'est celui entre la réserve de Nueil-Aubier et puis Otis, avec les réactions des entraîneurs, avec la réaction du buteur gardien goléador, hein, effectivement Paul Journeau qui a marqué le but qui qualifie. On va vous rappeler quand même que cet après-midi on met à jour les championnats départementaux. Nueil-Aubier, la réserve face au Touare Foot, Saint-Serbouillé face à Saint-Thomas-le-Clou, Saint-Varan face à Niort-Saint-Florent. Cet après-midi également dans la deuxième division, dans la poule Nord, deux rencontres, Beaulieu-Breuil face à Voulmentin, les Comoriens face au Pays Argentonais, et puis dans la poule Sud, l'Avenir 79 face à l'Union Sud de Sèvres, Venise Verte face au FC Boutonnais, le FC Otis face au Talus, et Chiré-Saint-Gelais face à l'Entente Effre-Fort-Praec. Voilà pour ces championnats cet après-midi. La pause, et après on revient sur ce très beau quart de finale entre Nueil-Aubier et puis le club d'Otis.
Sport Matin dimanche avec Sirière Automobile, vente et réparation de véhicules toutes marques.
Allez, le retour sur ces championnats départementaux. On a parlé également avec les réactions à l'occasion du quart de finale entre le FCPO et puis l'Olympique de Saint-Lyguerre. Autre beau quart de finale, celui entre la réserve de Nueil-Aubier et le FC Otis. Laurent Guichot, alors il a fait un truc très très bien, Laurent, c'est qu'il a réuni les deux entraîneurs. Et les deux entraîneurs, eh bien, se répondent l'un après l'autre dans la foulée. Ça montre l'esprit très fair-play qu'il y a eu certainement dans cette rencontre. Ça nous plaît bien. Alors d'abord les entraîneurs, après la petite réaction, et puis après il y a quand même un truc super dans cette rencontre. Rendez-vous compte, c'est que c'est Paul Journeau, le gardien de but, qui marque le but vainqueur de 45 mètres. Et nous, Paul Journeau, on est allé l'interroger hier matin. Bon, il était un peu... C'était aux sorties de son lit, mais n'empêche. Alors, on va d'abord aller voir et Vincent Brémeau et Mathieu Biraud, les deux coachs, bah eux aussi, qui n'en revenaient pas de ce scénario complètement fou.
Il y a beaucoup de frustration forcément parce que on fait plutôt le match qu'il faut par rapport à notre adversaire. C'est un adversaire qui est troisième en haut du tableau de D1. Nous on est dernier en D2, donc fatalement ça a compliqué un peu la tâche dès le début de match. Pour autant on a joué notre va-tout et puis malheureusement on n'a pas tenu les 6 dernières minutes après le temps additionnel. Et on loupe surtout le coche d'aller marquer ce deuxième but, parce que ce deuxième but aurait fait très mal à leur coach, je pense, qui est juste à côté de moi là. Et puis voilà, c'est comme ça, mais c'est la magie de la coupe aussi, bravo à eux surtout. Et puis je nous souhaite bonne fin de saison à tous les deux, que ce soit Mathieu soit moi. Voilà.
Mathieu, toi j'imagine que ça paraît improbable par rapport à la deuxième mi-temps que vous faites.
Surtout que là on reste sur 3 défaites consécutives en championnat, ou un peu sur les mêmes types de matchs où on se fait avoir parce qu'on n'a pas de réussite offensive, en tout cas on la crée pas. J'ai bien cru que ça allait encore être la même chose aujourd'hui. Je sais pas combien on peut louper de frappes, je sais pas s'ils ont une frappe, ils mettent un corner rentrant, il est magnifique quoi, mais ça a commencé à être très frustrant et voilà, là c'est vraiment la magie de la coupe. J'ai un gardien qui m'a annoncé qu'il voulait aller le plus loin possible dans cette compétition, parce que l'année dernière il avait pas pu être en demi-finale et il avait énormément de regrets. Il vient nous délivrer à la 96e, donc félicitations à lui, félicitations aux joueurs, et ça fait plaisir de retrouver Moléon en demi-finale, petite revanche par rapport à la saison dernière.
Là, il va y avoir des demi-finales de Coupe des Deux-Sèvres. Ça va être la vraie folie sur le département. On vous rappelle que le Pays argentonais, qui s'est qualifié au tir au but contre Effrofort Prague, jouera face à la réserve de Parthenay. Match, rappelons-le, sur terrain neutre. Et puis, effectivement, le Pays de Loing face au FC Noyaux-Biers, des équipes qui s'étaient jouées l'an dernier avec des garçons qui avaient manqué l'événement. C'est le cas de Quentin Rousseau. Et c'est aussi le cas de Paul Journeau, le coach vous l'a dit, hein, qui n'était pas là l'an dernier. Et Paul était donc buteur ce jeudi. C'est lui qui met le coup franc de 45 mètres. Patrice Bémanangil l'a réveillé un peu hier matin pour que Paul nous explique ce qu'il s'est passé.
Ce but, c'est un coup franc de 45 mètres avant à la dernière minute. Et je ne sais pas pourquoi mon défenseur il veut le prendre. Et je lui dis non, laisse-la moi, j'ai envie de la prendre. Et j'ai toujours dit que quand on fait des coups francs comme ça, il faut toujours... Il faut toujours les cadrer. Donc j'avais dans l'optique de le cadrer, mais pas forcément de le marquer. Et puis après, ça fait mouche, quoi.
En tout cas, ça a surpris le gardien adverse.
Ah bah oui, c'est sûr. Après, je pense qu'il est pas aidé aussi, parce que c'est un ballon en cloche, c'est pas facile à gérer. Et mon défenseur, là, qui était pour faire la tête, il joue bien le duel aussi. Donc je pense que c'est un tout qui fait que le gardien n'a pas réussi à sa sortie, quoi.
Et après ce but libérateur, comment as-tu vécu la situation?
Ben heureux, je sais pas, j'enlève mon maillot, je vais courir pour voir un copain là, qui est blessé et qui peut pas jouer. J'étais dans l'euphorie, mais surtout heureux de la pression qui relâche, donc on fait un peu n'importe quoi, quoi. Mais...
Et tu y penses encore aujourd'hui?
Ah bah oui, de toute façon c'est un but que je pense toute ma vie. Hein. C'est incroyable de réussir à marquer un but à la dernière minute pour se qualifier en demi-finale. Alors c'est que la Coupe des Deux-Sèvres, mais à notre niveau c'est incroyable.
Ouais, la belle réaction de Paul Journeau. Alors ce qui est cool, c'est que quand il y aura un repas de famille maintenant chez les journaux, on sait que le papa Michael a été un buteur, goléador bien évidemment, et que Pierre et Charles sont également buteurs, et bien lui, le Benjamin de la famille, Paul pourra lever le doigt, vous frapper et dire hey, « oh, moi aussi les garçons, je suis gardien de but, mais moi aussi j'ai marqué, bravo donc à Paul pour ce bel exploit et cette qualification ». Voilà, vous l'avez compris, hein, que ce Noyaux-Biers face au Pays de Loing va être super important. Et puis les Noyaux-Biers, il va falloir qu'ils se remettent dans le coup dans ce championnat de première division. Voilà pour cette page football. On enchaîne avec le basket et on va aller saluer d'abord la victoire des Choletais, hein, qui se sont imposés face à Boulazac. Ça semblait pas évident, hein, parce que le début de match avait été un petit peu scabreux pour les hommes de Fabrice Lefrançois, qui avaient pris un 12-0, clairement. C'est vrai qu'il y avait eu 15 jours hein, sans match, il fallait peut-être se remettre dans le bain. Et puis dans les colonnes de Ouest France, notre copain Julien Hippocrate a signé un très très bel article, et notamment le début, hein, il évoque la performance de Gérald Ayayi. Voyez plutôt 25 points, dont 12 dans le dernier quart-temps. Gérald qui provoque 9 fautes, il est à 9 sur 12 au lancer franc. Résultat 26 dévalorisé évaluation et il n'a pas tant joué que ça. Finalement, il n'a joué que 24 minutes. Et puis, Julien, de reprendre la déclaration de Cyril Eliezer-Venereau, l'adversaire, un joueur de Boulazac, qui dit « Gérald Ayayi a été le patron de Cholet. Il a pris son équipe sur ses épaules en fin de match. » C'est très très fort et nous, ça nous réjouit d'autant plus que 48 heures avant, il était à nos côtés, Gérald Ayayi. Bah oui, il était à nos côtés dans Cholet Basket, le podcast. Il jouait les traducteurs pour TJ Campbell, qui était l'un des invités de ce 13e numéro, un podcast que vous pouvez retrouver en ligne sur notre site et sur toutes les plateformes. Cholet Basket, le podcast, avec les deux invités et TJ Campbell et Gérald Ayayi. Les Choletais qui se sont imposés 84 à 66 et qui se sont imposés de 12 points, me semble-t-il. Pardon, 84-66, c'est l'AS Niort. Et on va en parler dans quelques instants. Sachez que Cholet joue face à Nancy, ce sera le prochain match. D'ailleurs, il reste maintenant plus que deux matchs dans la phase régulière. Cholet-Nancy, ce sera dimanche 10 mai. Et bien évidemment, comme c'est à l'espace Michel Léger, ce sera une rencontre à suivre sur les ondes de Colline. Il faudra attendre la rencontre de ce soir entre Strasbourg et Monaco pour savoir si Cholet peut grappiller pour être dans le top 6 à deux journées de la fin ou bien rester 7e du classement comme c'est l'heure actuelle ce dimanche matin. Voilà pour la page de la Betclic Elite. On va tout de suite aller à Niort retrouver Laurent Hay. Bonjour Laurent.
Oui, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, de passer nous voir. Victoire, alors le 84-66, c'est la victoire de l'AS Niort hier soir, mais au-delà de cette victoire, c'était la fin du bail de Laurent Hay à l'AS Niort. D'abord, on parle de cette rencontre, Laurent. Vous êtes sur une super dynamique, votre équipe a enchaîné les succès, le maintien est déjà acquis depuis quelques journées, mais qu'est-ce qui fait qu'on termine bien cette saison ?
Oh, je pense qu'on termine bien parce que on l'a commencé petitement sur le plan des résultats. Par contre, j'ai un groupe qui a beaucoup bossé. C'est un groupe qui avait été renouvelé à 60% avec beaucoup de jeunes qui n'avaient jamais mis un pied en National 2. J'ai eu pas mal de blessures jusqu'à Noël où on a fait que du bricolage. Il fallait du temps ce groupe, mais qui a toujours très bien travaillé. J'ai toujours dit que c'était un chouette groupe que j'aimais beaucoup. Et je pense que depuis le mois de janvier, où on a connu beaucoup de victoires, je crois que c'était aussi la conséquence des mois précédents de travail. Et voilà, donc on a réussi à en faire un vrai collectif, une vraie équipe, qui accepte chacun son statut et qui prend beaucoup de plaisir à jouer ensemble et puis qui nous donne beaucoup de plaisir parce que sur la qualité basket, même quand on perdait, je trouvais que basketement parlant, c'était relativement cohérent tout ce que l'on faisait. Donc, c'était bien hier soir de conclure au moins à domicile cette saison-là. Maintenant, il nous reste un match samedi prochain à Brissac. On va essayer d'aller chercher une 13e victoire, mais en tous les cas, on était à 2 victoires début janvier, on est ce soir à 12 victoires, donc c'est bien, c'est vraiment bien.
J'avais peur, pour ne rien vous cacher Laurent, j'avais peur que la voix soit complètement éraillée ce matin, et en fait je sens que vous êtes plutôt bien, parce que vous étiez à l'honneur à l'occasion de ce dernier match, alors avant-dernier match de la saison, mais ce dernier match à domicile, parce que vous clôturez un bail, et pas n'importe quel bail, un bail de 10 ans. C'était sympa cette soirée Laurent ?
Oui, c'était très bien. Je tiens à remercier déjà les dirigeants de New York qui ont organisé une belle semaine, parce qu'on avait une soirée partenaire mercredi qui était aussi une fête par rapport à tout ça. On retrace un peu mes 10 ans. Hier soir, ça l'a été devant notre public niortais où la salle de bar était encore pleine. C'était un beau moment de partage avec tout le monde, et puis ça conclut de belle façon ces 10 ans. Là, j'ai laissé tout à l'heure un message à mes dirigeants pour les remercier de tout ça, et puis c'est toujours agréable pour un entraîneur de quitter un club de cette manière-là, de cette façon-là, donc avec le devoir, le sentiment de devoir accompli, et voilà, donc j'ai passé 10 belles années, où on partait de très très loin avec Niort, hein, et on a créé un club, on a créé une histoire, le début d'une histoire, et que c'est pas l'histoire d'un seul homme, c'est l'histoire de tout un groupe. Le sportif a été très très vite à Niort, et puis on est monté très très vite de N3 à N2, et puis les dirigeants se sont mis aussi au travail pour nous suivre, pour pas être dépassés, pour pour être dans les clubs à part d'exigence de la N2 et le club s'est vraiment structuré à tous les niveaux et puis chez les jeunes aussi au niveau de la formation. Donc aujourd'hui c'est une belle, un beau club, une belle entreprise et qui reste fragile. Hein. Faut pas non plus se leurrer parce que il faut de l'argent à ces niveaux-là et que ça reste quand même fragile. Tant au niveau du club que du sport en général, je trouve, sur le bassin niortais. J'en parlais d'ailleurs avec une élue hier, par rapport à tout ça. Mais j'espère qu'ils vont continuer à bien bosser. J'ai pas trop de doute là-dessus. J'espère que le meilleur reste à venir pour eux. Mais en tous les cas, ouais, je suis satisfait de tout le travail qu'on a fait depuis 10 ans. On a créé au moins les bases qui sont, je pense, solides. Et puis après, ça a eu de continuer cette avancée et j'espère qu'ils vont pouvoir se développer, notamment sur le plan économique.
Ouais, c'est l'AS Niort qui va prendre le relais. Il y a eu la déchéance des Chamois Niortais, il y a le Niort Rugby Club qui est rétrogradé. C'est le moment à l'AS Niort de se dire, nous, basketteurs, là, il faut qu'on se positionne.
Moi, j'ai toujours dit aux dirigeants que fallait pas non plus laisser trop le temps passer parce que, évidemment, que par la force des choses, il y a la place à prendre à Niort. Je trouve ça dommageable pour les Niortais, le public Niortais, aujourd'hui d'avoir pratiquement que le basket comme sport. Et voilà, je pense que c'était une richesse d'avoir du rugby, du foot, le hand, et là, le volley. Mais à un bon niveau, il n'y a plus que le basket. Et je trouve que c'est pas forcément bien pour la ville en elle-même. Ensuite, pour le club de basket, oui, ils ont une chance à saisir. Je pense que dans le temps, les Chamois renaîtront, le rugby reviendra, il fera du temps pour eux, mais ça reviendra. Il faut que le basket s'installe et durablement, et que économiquement aussi, il y a peut-être aussi des choses à exploiter à l'heure actuelle. Ça a eu de le saisir et de pas laisser les autres venir. Voilà, mais en tous les cas, il y a la place pour le basket à Niort. Il y a toujours eu beaucoup de monde depuis 10 ans. J'ai toujours été étonné de cette affluence à Barra, à la clameur de tout temps. Et je crois que les Niortais aiment le basket, sans forcément bien connaître le basket, mais aiment ce sport-là. Et j'espère qu'ils vont, ça va encore grandir, en espérant aussi qu'à un moment donné, le club puisse disposer d'une salle qui ressemble quand même plus à une vraie salle de basket et pourra mieux accueillir les publics, les partenaires, tout ça. Il faut un outil qui soit d'une meilleure envergure. Bon, je sais que ça sera pas dans l'immédiat, mais ça sera nécessaire pour que le club se développe. Mais en tous les cas, c'est le basket à sa place à Niort.
Et la suite pour vous, Laurent, c'est quoi?
La suite, ça va être de m'imposer un petit peu. J'aurais aimé continuer à ce niveau-là parce que c'est un niveau qui me correspond bien, où je me sens bien. Par contre, ça nécessite de partir de La Rochelle où je vis, où je travaille, donc ça veut dire des mutations. Donc, je pense que ça va être compliqué. Après, c'est soit j'aurais aimé peut-être travailler aussi pour une agence d'agents de joueurs pour aller superviser des prospects ou des joueurs à droite à gauche. Ça, c'est une fonction qui pourrait me plaire. Ou alors autour de La Rochelle, peut-être essayer à La Rochelle. Le problème, c'est qu'il y a le Stade Rochelet et à côté, il n'y a pas beaucoup de clubs et pas beaucoup de clubs. Il n'y a aucun club de niveau national. Donc, c'est peut-être aussi c'est essayer de trouver un endroit où. Pourquoi pas les aider à monter en National 3, voire National 2 sur moyen terme, pour qu'il y ait un club un petit peu satellite du Stade Rochelet. Et puis voilà, on va voir. Je ne sais pas quel est l'avenir, mais j'aimerais rester encore quelques années au contact du milieu basket avant de prendre ma retraite. Parce que ça reste toujours une passion, ça reste toujours une partie de ma vie. Mais je vais essayer de la ville de façon différente, tout en soufflant un petit peu. Puis voilà, dans tous les cas, je vais essayer de rester et au moins en contact et puis de suivre l'actualité du basket. Je suivrai mon frère un peu plus avec Pau. Je pense que j'irai de temps en temps là-bas, le voir. Ça me permettra aussi de faire des choses différentes, mais le basket ne sera jamais loin de ma vie, ça c'est sûr.
Et plutôt avec des seniors qu'avec des jeunes, finalement, à vous écouter?
Les jeunes m'intéressent, mais à un certain niveau. Repartir de la base, non, parce que ça a été mon métier. J'étais longtemps entraîneur de centre de formation à Cognac puis à Paris. Après, ça fait très longtemps que je travaille plutôt avec des seniors, donc me remettre avec les jeunes peut être un projet, mais j'aimerais avoir des jeunes de qualité quand même dans les mains pour les accompagner à aller vers le haut niveau, parce que c'est le haut niveau qui m'a toujours attiré. J'y ai passé mes plus belles années d'entraîneur là-bas, et rechercher cette performance-là, aller vers ça, c'est quelque chose qui m'anime, et c'est pour ça que j'ai toujours eu souvent des jeunes dans mes équipes de National 2 pour les accompagner, pour qu'ils franchissent un cap pour pouvoir aller plus haut. Voilà, donc ça peut être aussi un projet, mais tout dépend de ce qu'on pourra me proposer ou pas. Donc voilà, mais jeune ou adulte avec un objectif d'aller vers le niveau national, oui, ça peut m'intéresser.
On pourrait vous voir comme spectateur du côté de la Meilleraie. Alors, fin de saison, il ne reste plus beaucoup de matchs, mais l'année prochaine, par exemple, en tant que spectateur ?
Oui. Je n'avais pas la chance d'y aller souvent, mais chaque année, dès que j'avais un week-end libre, j'ai un de mes copains qui est Choletais, qui joue au basket, et ça nous permettait de nous retrouver à Cholet, d'aller voir un match, de manger en ville derrière. Oui, Cholet, je suis blessuré, hein, donc Cholet, c'est pas loin. Ma femme est choletaise, on a des attaches aussi de ce côté-là. Et puis Cholet, quand je suis arrivé à Paris, au PSG, c'était mon premier match hein, en Pro 1, c'était le déplacement à Cholet. Et c'était pour moi un événement, ma famille venait ici. Et non, Cholet, je pense que je vais pouvoir y aller plus souvent. Et puis ça va bien, hein, Cholet, ça... Ça va très bien et on attend avec impatience leur nouvel outil.
Donc on donne rendez-vous, Laurent. L'année prochaine, vous venez voir un ou plusieurs matchs à Cholet Basket et vous viendrez sur les ondes de Colline puisqu'on commente les matchs à la maison et on aura plaisir à vous accueillir au micro de Colline dans cette salle, dans cet espace Michel Léger pour l'an prochain. Vous prenez note, hein, s'il vous plaît.
Oui, ça fera un grand plaisir pour moi.
En tout cas, merci beaucoup, Laurent. Merci beaucoup pour votre disponibilité. C'est toujours un vrai plaisir de converser avec vous. Et le prochain rendez-vous, on l'a noté, donc ce sera à Cholet. Bon dimanche, bonne fin de saison, parce que c'est vrai qu'il y a un match à Brissac, c'est le derby, il faudra le gagner. Hein. Vous voyagez plutôt bien hein, ces derniers temps.
Pour l'instant, ça se passe bien.
Allez, merci Laurent, bon dimanche, au plaisir.
Merci, rendez-vous à Cholet.
Merci beaucoup, Laurent est l'emblématique entraîneur de l'AS Niort, qui termine un bail de 10 ans. Et c'est pas rien, vous l'avez compris. On va rester dans les sports co parce qu'on a une super réaction à vous proposer. C'est celle du coach Martin, l'entraîneur de Celles-sur-Belle, puisque les Celloises se sont imposées dans leur match au sommet. C'était face à l'équipe de Saint-Junien-Rochechouart, les Limougeaudes. Celles-sur-Belle s'est brillamment imposée. Alors non seulement elles s'imposent, mais elles prennent la tête du championnat. Victoire 33-31, la belle réaction d'abord de Maxime Martin, content de se dérouler de match. Il est au micro de Grégory Diguet.
Premier objectif était de gagner. Après, on aurait aimé reprendre le goal average. Je pense qu'on avait les ballons pour, mais après, voilà, on a eu une telle débauche d'énergie qu'en fin de match, on l'a payé aussi. Mais c'était ce qu'on s'était dit, de mettre beaucoup de rythme en acceptant que par un moment, on allait le payer. Mais on pensait, on a eu raison, que c'était la clé aussi pour gagner. Je pense que c'est une équipe qui n'est pas à l'aise quand elle doit courir. Et nous, on a essayé vraiment de mettre beaucoup de rythme d'entrée. Et voilà, ça nous a souri. Maintenant, c'est ce qu'il nous reste à faire. On a 3 matchs de championnat, il faut gagner les 3. Parce qu'elles ne perdront pas de points. Donc au moins, la situation est claire. 4 matchs avec la Coupe de France, ça doit être 4 finales qu'il faut gagner.
Voilà l'objectif pour les Celloises, parce qu'il y a une finale de Coupe de France du côté de Bercy. Et Maxime Martin, qui lui a particulièrement apprécié cette équipe, ce groupe qui s'est construit un peu dans la difficulté, mais là qui arrive presque à maturité.
L'équipe, elle a grandi au fur et à mesure de la saison, et nous, c'est ce qu'on disait en début d'année, que fallait pas oublier que cette équipe-là, au-delà de tout ce qui s'est passé, on a changé 6 joueuses à l'intersaison. Il y en a 2 qui sont parties, une qui est arrivée, une autre qui est partie, qui a pas été remplacée. Donc en fait, c'était compliqué d'avoir de la stabilité, que ce soit sur le terrain et même au niveau émotionnel, pour que les filles arrivent à se faire confiance, à créer des affinités. Et oui, au fur et à mesure des matchs, ça avance. Et après, de toute façon, quand tu gagnes, la confiance vient, donc tu as moins de pression aussi. Et effectivement, là, ça fait plusieurs semaines où ça tourne de notre côté, mais encore une fois, c'est pas le hasard. Les filles, elles vont se le chercher, c'est-à-dire que à l'entraînement, autant il y a des semaines où on a été obligé de hausser un peu le ton parce que ça ronronnait à l'entraînement. Honnêtement, depuis 3 semaines, 1 mois, on n'a rien à leur reprocher, quoi. On n'a rien à leur reprocher. Donc, c'est aussi le résultat de leur travail. Il faut les féliciter parce que, je le répète, les gens ont tendance à l'oublier, mais ce groupe-là, il s'est construit quand même dans la douleur, quoi.
Un groupe qui s'est construit dans la douleur, vient de nous dire Maxime Martin, qui lui aussi a sacrément apprécié l'ambiance d'hier soir.
Je pense qu'au moment où on a manqué d'énergie, eh ben, eux aussi ils sont venus et ils nous ont aidés et accompagnés. C'est-à-dire que cette force-là que te donne ce public, cette ambiance, c'est sûr que dans les moments difficiles ou quand ça pioche un peu, que tu manques d'énergie, ben voilà, ça t'aide à faire le geste de plus pour aller marquer le but ou le déplacement supplémentaire pour essayer de bien défendre. Donc voilà, on sait que jouer ici pour nous c'est une force. Notre objectif cette année c'était d'être invaincu à domicile. Alors encore un match contre Bordes à la maison. Là on va aller jouer 3 fois loin de nos bases. Mais même si je pense qu'à Bercy on sera pas si loin que ça du chaudron vu l'engouement qu'il y a. Mais voilà, écoute, je te le dis, là on va profiter.
Oui, on va profiter, pardon. Greg Diggy au micro qui interrogeait donc Maxime Martin. La victoire de Celles-sur-Belle, c'est super important pour nos Celloises qui prennent la tête de ce championnat. Résultat en National 2, en revanche, c'est ballottage hyper défavorable quand même pour les Montcoutantais qui jouaient face à La Rochelle hier soir à la salle de la Chênaie. Les Maritimes se sont imposées 29 à 24. Elles sont désormais avant-dernières, hein, les Montcoutantaises et... Jérémy Asti a dit, hein, s'il y a défaite ce samedi soir, on sera mal engagé pour se maintenir. Allez, il reste encore quelques rencontres néanmoins pour espérer justement ce maintien. En National 2, vous noterez qu'Opouzeau s'est imposé face à Rosé 35 à 30 et qu'en National 3, chez les garçons, La Ferrière et Niort-Agglo ont fait match nul 36 partout. On parle de judo. Elle entre dans l'histoire du judo club du Bocage-Bressuirey en devenant la première athlète du club à monter sur un podium international sous les couleurs de l'équipe de France, s'il vous plaît. Maëline Wanji, qui a intégré le Pôle Espoir de Poitiers, a été sélectionnée en équipe de France pour l'European Cup Cadet. C'était à Berlin, dans la catégorie des plus de 70 kilos, et elle a remporté la médaille de bronze. Sébastien Galas, le directeur technique du judo club du Bocage-Bressuirey.
Donc là, elle a été repérée, elle a été sélectionnée pour l'European Cup de Berlin où elle était alignée avec l'équipe de France et donc elle a réussi à se hisser à la 3e place. C'est la première fois qu'on a une athlète du club qui est sélectionnée en équipe de France et qui fait une médaille européenne. Donc, elle est déjà motivée, elle est hyper assidue, elle a un tempérament de feu sur le tapis, mais elle est superbe aussi en dehors dans son état d'esprit. Là, son objectif forcément, c'est de continuer à essayer de prétendre à l'équipe de France et on espère tous qu'elle se qualifie après et qu'elle soit sélectionnée au niveau du championnat européen. Elle suit les entraînements tous les jours au niveau judo mais aussi en prépa physique et elle est dans un lycée où elle est en terminale actuellement. Son objectif, c'est d'avoir le bac et après de poursuivre en études supérieures.
Ouais, la belle satisfaction pour le judo club du Bocage-Bressuirey avec cette jeune Maëline Wanji qui est donc médaillée et qui est issue des rangs du JCBB. On va parler de cyclisme également avec le premier tour cycliste de l'avenir en Bocage-Bressuirey qui se disputait hier samedi. La première manche de cette épreuve organisée par le BAC, hein, comprenait le Bressuirey Activité Cyclisme, avait pour théâtre la commune de Chanteloup. Une centaine d'enfants de catégorie U7 à U17 avaient répondu présent à cette première parfaitement organisée. Cyril Gandrillon et Antoine Baudy, membres du BAC.
Bon, moi je dis très très bien, le public répond présent, les courses ont été assez fructueuses. Donc,
c'était un pari de reprendre ce genre de compétition?
Bon, c'est surtout pour promouvoir un peu le vélo des jeunes, parce que on sait que le vélo n'a pas forcément une bonne presse, mais là je pense qu'on essaye de le mettre de l'avant avec notre Paul Sextas et puis tous ces jeunes, donc je pense que c'est pas mal.
Avec quand même une petite particularité, ce sont ces maillots.
Oui, on a voulu vraiment créer un challenge justement et donc récompenser les meilleurs jeunes en fonction des points chauds. Donc c'est le maillot de sprinter, grimpeur également, donc un circuit qui était difficile, hein, donc et puis un maillot aussi général, donc le maillot jaune comme au Tour de France.
Alors le circuit il est un peu atypique parce qu'il est vraiment pas très plat, donc on est à 56 mètres de dénivelé je crois, donc ça reste pas très très haut pour des professionnels, mais pour des jeunes ça fait un peu de sélection pour ceux qui aiment bien grimper, on va dire ça comme ça. On les voit tous s'encourager les uns aux autres, on avait créé une petite fan zone, enfin on voit que ça leur plaît ce vélo, donc ils sont vraiment motivés.
Il y a la compétition mais pas forcément de la compétition entre les jeunes.
L'objectif c'est de gagner hein, comme tout sport. Après c'est une compétition bon enfant puisque l'objectif c'est de passer un moment entre copains, entre jeunes et bien sûr l'objectif est quand même de gagner.
Et parmi les vainqueurs, le petit Émile du club de Pouzauges dans la catégorie des U9. Un petit Émile qui ne compte pas en rester là.
J'aime bien les courses et surtout les quilles et les sprints. Et sinon, j'aime bien participer aux courses. J'aime bien aller vite en vélo.
Et du vélo, tu en fais depuis longtemps ?
Oui.
Combien de temps ?
3 ans.
En tout cas, c'était bien ?
Oui, j'ai bien aimé.
Et la prochaine course pour toi, c'est où et quand ?
Mayenne.
En Mayenne ?
Oui. C'est à Mayenne dans 2 semaines.
Et voilà, Émile qui se projette sur son prochain programme à venir. Voilà cette première manche du Tour de l'Avenir Bocquin hier samedi à Chanteloup. La seconde, vous le notez, elle aura lieu à Montravers le 28 juin et la troisième à Bressuire le 30 août. Nous en reparlerons d'ici là. Reportage complet signé Patrice Bémanongi. Allez, on termine avec du futsal puisque Niort s'apprête à recevoir les finales de la Coupe de France. Ce sera le 16 mai prochain à la Clameur avec 2 matchs à l'affiche. La finale senior sera précédée de la finale U18 à 15h30 et le match phare va opposer Nantes Métropole à Toulon. Alors pourquoi vous parle-t-on des Nantais en finale? Eh bien parce que la rencontre a été soigneusement préparée et ils vont pouvoir compter les Nantais sur Julien Onillon pour décortiquer le jeu de l'adversaire. Ce presque trentenaire est originaire de la Petite Boissière. Il a joué sous les couleurs de Combrancière. Il a été éducateur des jeunes à Bocafoot. Et c'est lors de ses études à Nantes qu'il a basculé vers le futsal pour ne plus jamais lâcher cette discipline qu'il occupe maintenant à 100% et même plus aujourd'hui puisqu'il est aussi le coach de l'équipe féminine. Le club connaît le parfum de la coupe pour l'avoir remporté en 2022. Entretien avec Julien Onillon.
Ça fait un petit peu une finale à la maison pour moi, mais oui, on est content. Ça fait une finale, même de Nantes qui n'est pas très loin. On va pouvoir emmener nos supporters. On a des bus qui sont programmés pour aller rejoindre Niort pour la finale.
Comment on passe de la Petite Boissière au banc de touche justement de ce club de Nantes en futsal?
Un petit peu par hasard finalement. Moi, je suis arrivé à Nantes pour les études finalement pour la fac au stade de Nantes. En parallèle, je suis vite entré avec l'école de foot du FC Nantes chez les jeunes. Et en cherchant un stage d'analyse vidéo, je me suis lancé un petit peu dans le futsal. Et puis petit à petit, je suis passé de plus en plus du foot vers le futsal. Et là maintenant, ça va faire depuis 9 ans que je suis au club du Nantes Métropole Futsal. Donc dans un premier temps quand on analyse vidéo et puis petit à petit en tant que responsable de la section féminine et coach adjoint des garçons.
Alors le futsal qui monte en puissance hein, depuis quelques saisons maintenant.
Ben exactement, là ça a pris un bon tournant ces dernières années avec l'équipe de France qui fait aussi de bons résultats, qui passe sur l'équipe 21. Ils ont été en demi-finale de la Coupe du Monde, en demi-finale de l'Euro. Donc c'est sûr que ça nous a amené pas mal de visibilité. On a aussi un club français, Laval, là, qui est en demi-finale de Ligue des Champions cette année. Donc ouais, le futsal français est en train de prendre vraiment un nouvel essor. Il y a aussi la création là, la saison prochaine du championnat de France de futsal féminin. Donc voilà, sur tous les plans, le futsal il est en train de prendre une nouvelle dimension là depuis 4-5 ans.
Alors quand on ne connaît pas trop le futsal, comme c'est mon cas, on a l'image d'un football essentiellement technique, mais ça repose pas que sur la partie technique, j'imagine.
Ouais, c'est ça. Bah, c'est sûr que la partie technique, l'espace il est réduit, elle est prédominante, mais l'autre L'autre axe majeur de performance, c'est vraiment tout ce qui va être cognitif, la prise d'information, la capacité à décider vite. Tout ça, c'est vraiment, on va dire, presque même le point le plus important pour un joueur de futsal au-delà de la technique. C'est, je pense, le sport qui va vraiment devenir en vogue là sur ces prochaines années au niveau du foot.
Un Julien Onillon qui va préparer donc cette finale de la Coupe de France de futsal. Vous avez noté le rendez-vous, ce sera le 16 mai prochain, ce sera à la Clameur, l'équipe de Nantes qui sera opposée à Toulon. Donc on reviendra avec Julien sur son parcours ce soir dans Sport Dimanche Dernière. C'est la fin de ce beau grand numéro de Sport Matin Dimanche. Il y a eu le coup de feu pas mal, mais je pense que vous avez passé un bon moment, vous avez pris plaisir à nous écouter. En tout cas, on a fait un bon tour de l'actualité. Merci à vous, merci à tous nos correspondants. Je pense à Greg Diguet, je pense à Laurent Guichetot, je pense à Patrice également qui a fait le travail du côté du cyclisme.